grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Haloud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Auditrice, auditeur, bonsoir. Au menu de votre émission, le forum de la presse de ce vendredi 6 mars 2015, trois sujets, les pré-accords d'Alger, le sacre des cadets maliens à la CAN 2015 et la journée mondiale de la femme qui sera célébrée dans deux jours. Pour développer ces sujets, nous avons donc invité trois personnalités, trois hommes de médias, tous journalistes donc. Il s'agit de Maman Cissé qui est du Renouveau FM, Madou Cissé Radio Nostalgie et Madame Tokola Awa Semega Kounafoli.com. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les pré-accords d'Alger, on en parle depuis dimanche dernier, ce qui ne saurait guère surprendre, étant donné qu'il s'agit d'un événement dont l'importance n'échappe à personne ici au Mali. Peut-on dire que, pour une fois, les difficiles tractations en cours depuis des mois à Alger sont sur le point d'aboutir, même si pour l'instant, les Ménélas et ses alliés n'ont pas signé les documents? C'est la première question que nous allons posé à nos invités. Alors, la première que nous allons solliciter, la dame, nous la sollicitons en premier lieu, il s'agit de Madame Tokola Awa Semega Kounafoli.com.
Oui, je crois que le préavant d'Alger, c'est peut-être une voie, une issue à la sortie de crise. Non, mais c'est, je dirais que c'est un peu utopique parce que le MNLA, il se fait encore désirer pour la signature, disant qu'il va soi-disant consulter la population, la base, mais de quelle population ils veulent parler. Donc moi, je pense que c'est juste un jeu de leur part pour se faire un peu de publicité, pour se faire un peu désirer. Sinon, je crois que c'est un accord qui doit être signé, quoi, parce que ça englobe un peu les... comment dirais-je, les préoccupations de chaque parti, parce que chacun se reconnaît dans ces accords-là. Voilà.
Madou Cissé, Radio Nostalgie Kaye.
Oui, bonsoir à tout le monde. Je pense que, comme vous dites, hein, est-ce que c'est la question que vous posez, est-ce que c'est le point final hein, qui mettra fin à trois années, si on peut dire, de tractation, si j'essaie de prendre depuis le début de la crise jusqu'à maintenant. À ce stade, il y a deux groupes qui ont signé, à savoir, si j'essaie de raisonner en groupe, il y a le Mali, et puis il y a la plateforme, et maintenant il y a la CEMA, la coordination des mouvements de la Zawad, qui incorpore quelques groupuscules, mais qui sont d'une nuisance extraordinaire. Maintenant, la question, c'est de savoir à quand ils vont signer. Sinon, moi, personnellement, quand j'essaie d'analyser un peu cette situation, je ne pense pas que la CEMA va avoir d'autre choix que de signer, parce que nous avons déjà vu l'implication de la communauté internationale. Il y avait déjà le ministre français des Affaires étrangères qui disait qu'il encourage la CEMA à signer l'accord. Donc, en un mot, l'étau se resserre davantage autour d'eux, mais comme l'a dit Semega, ils vont se faire désirer, peut-être ils vont maintenir le suspense. Maintenant, jusqu'à quand ils vont maintenir le suspense? Mais tout compte fait, je me dis que cet accord sera signé. Voilà, parce que en réalité, je ne dirais pas que chacun trouve son compte dedans, mais c'est un accord qui me paraît encore juste pour tout le monde. Voilà, parce que comme le disait le ministre l'autre jour sur le plateau du journal, quand on va en négociation, on ne va pas pour gagner tout. Donc il y a des concessions à faire. Je crois qu'on est arrivé à un équilibre, à un compromis assez juste pour que nos amis, nos frères du Nord puissent apposer leur signature, sinon le paraphe d'abord et après passer à l'étape de la signature.
Maman, c'est de Renouveau FM.
Moi je pense qu'il faut voir cet accord sur l'angle de l'apaisement que veut le gouvernement, sinon je me mets dans une position où je ne partage pas seulement le point de vue de mes confrères, parce que je pense que c'est tout sauf un accord. Ironie du sort, le même président qui a bâti en brèche les accords d'Alger en 2006 est venu signer un accord similaire, parce que le contenu, il faut que les Maliens comprennent ce qu'il y a dedans. Il y a des pièges, et le piège numéro un, c'est qu'il y a le nom générique Azawad, qui a été à l'époque on ne le rappelle pas souvent, et l'initiative des apprentis sorciers qui, à l'époque, avait créé et ce qu'on appelle le MENA, le Mouvement National de Libération, le Mouvement National de l'Azawad, qui est devenu finalement Mouvement National de Libération de l'Azawad. Donc moi, je pense que tant qu'il y a ce genre de piège, il y a d'autres pièges, notamment le fait que au niveau du point 5, il y a des dispositions qui concernent les militaires déserteurs. Moi, je pense que c'est cette question. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'on pense que c'est un accord. Mais pour le moment, j'ai compris. Et c'est un point final pour le régime, parce que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est qu'on ait un accord, un document, et qui va leur permettre de travailler sur des projets, et qui n'aurait jamais avoir lieu si un accord n'est pas signé.
Alors, dites-nous, monsieur, si c'est dans ce contexte particulier, est-ce qu'un mauvais accord vaut-il mieux qu'une absence d'accord, un manque d'accord total?
Et je pense qu'il est important. Il est important qu'on revienne sur les bases qui ont fait que les Maliens ont accordé leur suffrage à Ibrahim Boubacar Keïta. Il était dit quelque part que c'est l'homme de la situation. Si Ibrahim Boubacar Keïta viendra ici, son excellence, il viendra nous proposer un accord taillé sur mesure. Je pense que c'est important de dire qu'un mauvais accord, à l'heure, au stade actuel, après tant de souffrances, je crois que ce n'est pas important. Parce que je veux juste vous raconter une anecdote. À Tombouctou, à Gao et ailleurs, où il y a eu l'occupation, dire seulement le nom de l'Azawad, ça peut créer des dégâts. Donc c'est important qu'on enlève ce piège. C'est vrai, aujourd'hui, les gens ne sont pas l'autre côté de la table. Ils préfèrent se mettre dans la logique qui les intéresse. La logique, c'est quoi? C'est qu'il faut faire un accord avec tous les risques.
Alors, dites, est-ce que la médiation internationale n'avait pas les soucis d'essayer de trouver le juste milieu? Mais est-ce qu'il peut y avoir un juste milieu dans ces cas précis? Je vais poser la question à Mme Togola Awasemega de kounafoli.com.
Non, c'est clair qu'il n'y aura jamais de juste milieu. Ça, c'est clair. Parce que chaque parti revendique quelque chose. Et si le gouvernement dit qu'il veut telle chose, le MNLA, c'est le contraire qu'il dira toujours. Donc, je crois qu'il n'y aura jamais de juste milieu.
Madou Cissé?
Oui, par rapport à ce que soutient mon collègue, j'adhère pas à ces opinions, parce que il faudrait dans cette situation que les uns et les autres soient pragmatiques, qu'ils essayent d'analyser la situation du moment et voir un peu leurs perspectives d'avenir. Moi personnellement, je ne vois pas d'objection qu'on mette le nom des Awad dans un document. Mais ce que je conçois pas, c'est quoi? C'est que le fait de créer, par exemple, une autonomie. Ils disent piège, mais j'ai lu tout l'accord, tout ça fait à peu près un truc de une trentaine de pages. Il est dit que l'Azawad est reflète une entité culturelle, socio-mémorielle, etc. Donc si ça c'est la réalité, moi ça ne me gêne pas qu'on dise le mandé dans quelque chose. Ça ne me gêne pas absolument. Mais si le mandé veut être indépendant par rapport au Mali, là, il y a un piège. Maintenant, le fait de mentionner cela n'est pas un piège. D'ailleurs, l'histoire et le cours de l'histoire donne raison au gouvernement malien. Je ne défends personne, mais j'essaie d'être pragmatique sur le terrain. Parce que c'est eux qui refusent de signer. Si c'était mentionné Azawad dans le document qui était important, pourquoi ils ne signent pas? Mais on voit que l'histoire donne raison au gouvernement. Ils refusent. Bon, je ne dis pas qu'ils refusent, mais jusqu'à présent, ils sont dans une explication qui ne dit pas son nom pour dire que les préoccupations majeures qu'ils ont n'ont pas été intégrées dans le document. Ça veut dire quoi? Que c'est pas citer l'Azawad qui est une préoccupation majeure, mais c'est de leur dire noir sur blanc, vous avez l'autonomie ou encore vous avez la fédération, etc., etc. Mais ils n'ont rien eu de tout cela. Donc restons pragmatiques. Et d'ailleurs, l'accord n'est pas applicable seulement aux seules régions du Nord. C'est applicable à toutes les régions du Mali. Donc, le pragmatisme recommande, là où nous sommes, d'aller avec ce accord, entre guillemets, que les uns et les autres peuvent juger de mauvais, que moi je ne jugerai pas de mauvais, et pour pouvoir progresser ensemble. Et je crois que nous sommes dans le bon sillage, dans la bonne direction.
Alors, dites-nous à présent, cette attitude de la coordination des groupes armés qui a donc refusé de signer le document, est-ce qu'elle vous a surpris, hein? Je pose la question en premier lieu à Maman Cissé de Renouveau FM.
Non, moi j'ai ma connaissance des acteurs, et ce qu'on ne le dit pas souvent. Et ceux qui sont à Alger ou bien ceux qui sont à Bamako, ils peuvent parler de ces questions avec beaucoup de légèreté. Mais tous les jours, nous sommes avec les acteurs. Nous savons pertinemment que le MNLA, les HCA, les MA et autres ne vont jamais signer un accord Parce que, en réalité, derrière les MNLA, les HCA et autres, il y a un véritable lobby. Un lobby qui a aussi ses raisons. Ses raisons, c'est quoi? C'est que, aujourd'hui, il y a quelle garantie, vous, Seydou Fomba, ou quelqu'un d'autre, peut donner aux acteurs? Je dis bien, c'est ce que les acteurs m'ont dit. Ils peuvent donner aux acteurs de la rébellion. Ils posent ces questions. Ces questions méritent d'avoir des réponses. Aujourd'hui, le gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta, et le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, propose quoi pour d'abord, s'il s'agit de continuer les mandats contre les rebelles et autres, ou bien ils ont quelle alternative qu'ils proposent aujourd'hui pour dire que ceux qui ont les armes, parce que quelqu'un qui a les armes, il est différent de celui qui n'a pas les armes. Donc, ils ont quelle alternative? Aujourd'hui, il est important que le régime Ibeka dise aux Maliens qu'est-ce qu'il propose et quel sera le sort de ces anciens, ce qu'on peut appeler des anciens rebelles. Il propose quoi? Pour le moment, on ne voit rien. Maintenant, quand mon frère parle du fait que c'est raisonnable, je comprends. Mais je dis, peut-être on n'a pas la même façon de voir les choses. Je dis, tous les pièges viennent de l'Azawad. L'Azawad, que vous le voulez ou pas, c'est différent du mandé que vous dites. C'est différent parce que moi, ce que je ne comprends pas, moi, je suis de Tombouctou, je suis né et grandi à Tombouctou, et je ne me retrouve pas dans l'Azawad. Et il y a quoi qui me lie à l'Azawad? Je partage quoi de l'Azawad? Oui, mais je peux dire que je porte le même turban que Moussa Gassari de Haute, mais il y a quoi qui me lie à l'Azawad en termes d'amour? Comme ça me lie avec le Mali. Donc c'est ça le véritable débat. Ça, il ne faut pas aller sur ce terrain parce que c'est ce terrain-là qui va permettre aux autres, j'ai dit aux MNLA et autres, de revenir. Parce qu'on le voit ailleurs. Les MNLA commencent à construire, à travailler l'opinion d'abord à travers les terres comme les terres Azawad et autres. Donc attention, faisons la différence. Ce n'est pas une entité culturelle, c'est vraiment une entité politique que les MNLA. Qui profite au MNLA, je parle de l'Azawad.
Maman, concernant l'Azawad, justement, j'ai bonne connaissance de la chose. L'Azawad, ça ne s'étend pas qu'au Mali. C'est le Niger, c'est l'Algérie. Parce que c'est tout un vaste espace qui est là. Donc, il ne faut pas.
Et dites-vous que si ça commence au Mali, si ça commence à réussir au Mali, ça va réussir au Niger, ça va réussir en Algérie. Justement. Donc, il ne faut pas que ça commence au Mali.
Justement, il faut que ce soit en fait un concept culturel et non. Voilà. Entité, une indépendance ou quoi que ce soit d'autre.
Mais à l'heure, vous êtes d'accord avec moi que l'Azawad, c'est plutôt politique que culturel.
Actuellement, ça a été instrumentalisé politiquement. Voilà.
Je crois que Mbadou Cissé de Radio Nostalgie à Kay a fort envie de réagir.
Mais juste, moi, je voudrais dire quoi par rapport à au fait qu'ils n'ont pas paraffé le document. Est-ce que je pouvais prédire? J'ai dit. Avec un grand nom et un petit oui. Le grand nom, c'est quoi? C'est que si ils avaient obtenu ce qu'ils cherchaient, ils allaient mettre la signature au bas du document. Ça, c'est clair. Mais comme ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient, donc, et sachant bien, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, sachant bien que le taux se resserre au jour le jour autour d'eux, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers là. Mais maintenant, moi, j'ai toujours dit dans mes interventions, il faudrait qu'on s'achemine un peu qu'on s'achemine réellement vers le pragmatisme américain. C'est-à-dire qu'on sorte un peu de tout ce qui est guerre politique, qu'ils appellent, quelle que soit l'appellation qu'ils veulent. Mais l'idée, comme l'a dit le président de la République, il trace une ligne rouge, il ne faut pas dépasser cette ligne rouge. Et à l'intérieur, on peut faire ce qu'on veut. Je pense que c'est vraiment très libéral et en même temps très, très coercitif. Donc, il faudrait que nous comprenions que ce que le gouvernement a proposé, quand on lit les accords, on voit que le gouvernement a proposé une tonne, sinon un tombereau d'alternatives par rapport à ceux qui étaient au niveau de forces loyalistes qui sont partis, par rapport aux constructions d'universités, par rapport au développement tout court. Tout a été proposé. Maintenant, il faudrait que nous attaquions aux causes du problème. Les causes du problème sont principalement le sous-développement. Nous avons de l'eau, il faudrait qu'on soit clair. Nous avons de l'eau à Gogo, au sud. Là. Au nord, ce n'est pas ça. Moi, j'ai étudié au nord. Je sais comment ça fonctionne.
Ok, Radio Tamani, Studio Tamani, il est 18h30. Nous allons observer une courte pause avant de continuer ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse.
Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, nous poursuivons avec notre sujet. Le sujet, c'est le préaccord d'Alger. Pour en parler, nous avons en direct dans ce studio trois journalistes, Maman Cissé Renouveau FM, Madou Cissé Radio Nostalgie Kai et Madame Togola Awa Semega Kounafoni.com. Alors, la question que je vais vous poser est la suivante. Quand la coordination justifie son refus d'apposer sa signature au bas du document par la nécessité de rendre compte à sa base, alors dites, c'est une démarche qui vous paraît sincère ou bien s'agirait-il d'un alibi qui cacherait une autre intention, Madame Togola?
Oui, c'est clair que ça cache une autre intention. Quelle base est-ce qu'ils veulent consulter pour pouvoir apposer les signatures sur ce préaccord-là? Je crois que c'est juste, ils veulent se montrer, quoi. C'est ça mon point de vue sur la question. Ils veulent juste se faire désirer, c'est tout. Mm-hmm. Sinon, il n'y a rien d'autre.
Maman, si c'est Renouveau FM.
Mais ça va vous surprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé cette position parce que, quelque part, c'est une position responsable. Parce que quand on va au nom de quelqu'un, on retourne. C'est ça la diversion. Et les Ménéla et ses alliés, ils sont forts dans la diversion. Et malheureusement, ça a réussi parce que vous voyez un gouvernement qui va à Alger et qui donne la plénitude de tous les pouvoirs à un président, je vais le dire aujourd'hui, mourant. Et de parler au nom de, j'ai dit un président Moulay Abdoulaye Aziz Bouteflika, okay. Parce que qu'on le veut ou pas, et quand les accords ont été, la médiation a été confiée à l'Algérie, le Mali est parti se confier au régime Bouteflika. Donc le régime Abdoulaye Bouteflika, qui tient grâce à son ministre des Affaires étrangères dans ce dossier, a proposé des solutions qui, à la limite, ont été imposées au gouvernement malien qui n'avait pas d'autre alternative.
Monsieur, est-ce que le société malien avait un autre choix?
Oui, ils ont un choix. Elles ont un choix parce que je pense qu'il est important. Et ça me fait peur quand je vois mon frère Cissé. Il tient un discours quand il me dit honore Yapalo et qu'on justifie la rébellion, l'insurrection, parce que tout simplement, on pense qu'il n'y a pas de nom. Je suis désolé. S'il y a à développer, ce n'est pas les MNLA ou quelqu'un d'autre qui doit demander à développer une région.
Ce sont les populations.
La terre appartient à l'État malien. C'est à l'État malien qui juge l'opportunité de faire des investissements ou pas. Si l'État malien ne le fait pas, ce n'est pas quelqu'un qui devait le pousser à le faire. C'est ça ma conviction. Mais donc je pense
que. Il faut que l'État malien le fasse aussi. Il faut que la population s'investisse. Il faut reconnaître que
c'est important. C'est important qu'on n'associe pas le combat du MNLA aux autres, au combat des gens du Nord. Mm-hmm. Les gens du Nord, ils ont d'autres combats qui n'ont rien à voir avec ce que les MNLA demandent. Et c'est là où je dis, c'est un piège. Le piège, c'est quoi? Quand on accepte que ces gens se sont soulevés parce qu'il y a un soulèvement, je dis, c'est un faux débat. Il n'appartient pas au MNLA ou à quelqu'un d'autre de parler au nom des gens qui n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Voilà.
Moi je me dis que mon collègue a le don de simplifier les choses. J'ai pas dit qu'ils se sont levés parce qu'il n'y a pas d'eau, mais j'ai juste pris un exemple parmi des millions. Tout le monde sait que vivre à Kai, c'est pas le même confort que vivre à Inakunder. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de faire de comparaisons chiffrées par rapport à ça.
Donc, moi, excusez-moi, monsieur Cissé, mais oui. Dans la même région de Kai, on peut retrouver deux localités,
oui,
avec des...
Mais en termes de moyenne, il n'y a pas photo. Ça, c'est clair, là. Donc, moi, je voudrais dire simplement que le fait, pour revenir à votre question, bien sûr, qui me paraît assez importante, le fait qu'ils n'ont pas signé pour aller prendre la base, c'est pas une question de responsabilité, comme le soutient mon collègue. Mais
écoutez, je crois qu'il était un peu ironique lorsqu'il le disait.
Mais en partant, ils sont partis au nom de qui? En leur propre nom ou au nom du peuple? Le gouvernement malien, quand il partait, il est parti au nom de qui? Au nom du peuple. Alors, je me dis simplement, je renverse un peu la pyramide. Si on leur avait dit, vous avez l'indépendance, ils vont dire non, on va attendre, on va demander aux gens si l'indépendance ça fonctionne
jamais.
Jamais. Donc c'est juste de la mauvaise foi. Faisons une analyse scientifique de la situation et non une analyse politique. Faisons scientifiquement l'analyse. On arrive à quelle conclusion? Que c'est des gens qui ne sont pas de très bonne foi, mais heureusement pour le Mali qui est une nation bénie, nous avons maintenant le reste du monde à nos côtés. et ils ont beau tourner, ils viendront à la table pour parapher d'abord, je préfère dire parapher, et après, on va, s'ils veulent qu'on aille signer à Kidal, on ira, il n'y a pas de problème.
Je crois que vous parlez pratiquement ici le même langage, parce que vous parlez d'irresponsabilité, lui parle de diversion. Alors, nous allons poursuivre maintenant la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Pensez-vous que les Mla et ses alliés reviendraient à de meilleurs sentiments en acceptant de signer les documents les jours ou les semaines à venir, Madame Touhoul?
Oh, les jours ou les semaines, il suffira encore toujours désirer. Ça m'étonnerait quand même de voir les signatures. Fortement. Je serais très étonné.
Maman Cissé.
Moi, je crois que je reste cohérent dans ce que j'ai dit. Et tous ceux qui ont suivi toute la semaine mes différents papiers sur la question savent que ça participe d'une logique. La logique, c'est quoi? C'est que, qu'on le veut ou pas, dans ce document, c'est les Ménélas qui a gagné. Les Ménélas et les alliés ont gagné. Parce qu'il y a des dispositions que le Malien le plus averti savent, en tout cas, portent des pièges. Les pièges, d'abord, je le dis, je le répète, c'est vraiment au niveau de ce fameux Azawad. Azawad, c'est plus qu'un tiroir, c'est plus qu'une idée, c'est un lobby qui est derrière. Et ce lobby, tant que le Malien ne parvient pas à comprendre qu'il faut casser ce lobby, on n'arrivera jamais à la stabilité au nord du Mali.
Nous allons à présent nous intéresser aux réactions par rapport à ces préaccords. Dites, comment est-ce que vous appréciez d'une façon générale la réaction des Maliens? Je crois savoir que l'opposition s'est exprimée sur la question, c'était mercredi. Alors, certains vont jusqu'à dire que, je cite, ce qui est arrivé à Alger est extrêmement grave pour le Mali et l'unité de la nation. C'est une critique un peu trop sévère, non, Madame Touhoula?
Un peu trop sévère, oui, je dirais. Parce que quand même, il faut quelques concessions pour pouvoir arriver à une sortie de crise.
Madou Cissé, Radio Nostalgie.
Oui, juste pour revenir à la précédente question, est-ce qu'ils vont signer ou pas? Je crois que la réponse, c'est vu, ils vont pas signer d'abord, mais est-ce qu'ils vont paraffer? Oui, parce que déjà la communauté internationale, mon collègue dit, le lobby... On pense au pétrole, mais cette communauté internationale, si c'est le lobby auquel il fait allusion, peut accorder le fédéralisme ou autre chose à ces bandits, entre guillemets, mais si elle n'a pas fait ce qu'elle sait de quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, par rapport à cette réaction, vraiment, il faudrait que qu'on soit pragmatique, s'il vous plaît. Le chemin le plus court pour satisfaire ceux qui s'opposent à l'idée de l'Azawad en tant qu'étel pris comme ça, et le mot Azawad pris comme ça, mais c'était de gagner la guerre. Si on avait gagné la guerre, c'était fini là. Mais on est là pourquoi? On va négocier pourquoi? Parce que nous ne sommes pas déjà en position de force. Il faudrait qu'on le comprenne. Quand j'essaie de faire le rapport entre notre position actuelle et l'accord, je dis sans embâge que nous avons gagné.
D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il ne signe pas. Il y a eu la réaction de l'opposition. Il y a aussi des réactions dans les camps des réfugiés. Et là, les avis sont partagés. Maman Cissé de Renou FM.
Moi, je pense que ceux qui peuvent se satisfaire de cet accord peuvent continuer. D'autant plus que j'ai entendu ce matin... C'est pour une enquête par rapport à ce même accord. Les Maliens qui disent, bon, écoutez, nous sommes fatigués. Des gens avertis. Nous sommes fatigués. Oui, puisque vous êtes fatigués. Vous avez peur de faire la guerre. Vous avez peur de vous imposer. Et il y avait des gens qui ont fait des promesses. Promesses de rendre au Mali sa dignité et autres. Aujourd'hui, qu'ils nous montrent la voie à suivre. La voie à suivre, c'est quoi? Si c'est vrai que c'est les Maliens qui sont en face, trouvons une solution malienne. La solution malienne, c'est quoi? C'est qu'ils sont là, qu'ils sont légitimes. C'est eux qui peuvent nous amener cette solution. Si aujourd'hui, ils capitulent à la dernière minute, ils veulent un accord pour juste sauvegarder leur pouvoir, je dis, bravo, nous allons tous continuer. Et dans quelques années, les Ménélas et autres vont revenir parce que à l'heure, ils sont confortés. Ils sont plus que confortés, comme ils ne l'ont été par le passé.
Madame Touhoula, Ouassé Mega.
Je ne suis pas toute réaction sur le sujet.
Nous allons donc donner la parole à Madou Cissé de Radio Nostalgica.
Oui, moi, je pense qu'il est très très important que les uns et les autres analysent cet accord-là. D'abord qu'ils le lisent, hein, franchement, hein, qu'ils le lisent, qu'ils sachent un peu qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc dedans. Et en plus, après cela, analyser cet accord avec la tête, pas le cœur. Okay, parce que nous sommes au 21e siècle, il faut se réveiller. La géopolitique a carrément changé. Et maintenant, si on essaie de juger ce qui va arriver dans 50 ans, dans 20 ans, 30 ans, en ce moment, on va dépasser notre Nostradamus. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a un accord que nous avons tous lu, j'espère, et qui est différent des autres accords, parce que à partir de l'implication d'abord de la communauté internationale autour de cet accord est une différence majeure. L'implication de toute la population est une différence majeure. Parce que les autres accords, c'était deux ou trois, quelques personnes qui partaient signer et venaient informer le peuple. Mm-hmm. Mais nous avons tous suivi à la minute le déroulement des négociations. Donc, je pense qu'il est temps, on ne dit pas qu'on capitule. Je pense que le mot est très fort, mais nous sommes raisonnables. Nous pensons qu'entre Maliens, on peut avoir des solutions maliano-maliennes et pour progresser et faire en sorte que ce pays maintenant puisse être stabilisé dans les années à venir. Voilà.
Je pense que mon frère Cissé de Caille, je pense que nous ne sommes pas dans le même pays. Ou même peut-être on est en train de vivre la même réalité, la réalité différemment. Parce que je pense que, je ne dis pas que nous sommes des privilégiés, mais je fais partie quand même des rares Maliens qui ont eu l'accord au moment où c'est entre quelques personnes entre un groupe restreint. Donc moi, je pense qu'il est important, comme vous l'avez dit, qu'on lise, on relise cet accord, parce que je pense qu'il est important ce qui est dans cet accord. Vous dites bien qu'il y a eu beaucoup de communication autour de cet accord. Moi, je pense qu'on n'est pas dans la même logique, parce que je pense que ce qui a été demandé par certains acteurs, dont je parle de l'opposition, avait demandé à un moment à ce que les discussions soient élargies et qu'on puisse s'approprier l'accord, ça n'a pas été fait. Ils sont partis à Alger. On sait dans quelles conditions ils sont partis à Alger. Mais c'est important. Il ne faut pas continuer à distraire les Maliens. Cet accord contient des dispositions qui fâchent et qui continuent d'être des pièges. Comme l'a dit le Coran, comme l'a dit d'autres organisations, je vais juste dire le cas de Zoumana Sakho qui est quand même quelqu'un qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, il sait de quoi il parle quand il parle de cet accord.
Alors, Maman Cissé de Renew FM et Madou Cissé de Radio Nostalgica, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Je crois que nous allons solliciter Madame Tougoula Wassemega.
Non, je pense que c'est clair que d'abord, il faut que les gens comprennent le contenu de cet accord. Parce que c'est important de le lire, comme disait M. Cissé tout à l'heure. Au moins, s'il est vulgarisé, si tout le monde voit l'accord, tout le monde voit le contenu, maintenant, on pourra discuter clairement sur les points qui fâchent, comme disent Maman.
Madou Cissé,
moi, j'aurais voulu, vous savez, parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas politicien. Je suis d'accord.
Tous les trois, vous êtes journaliste.
Non, je dis, mais je voudrais que ceux qui ne sont pas d'accord avec l'accord-là et les points qui fâchent, qui le mettent, voilà, voici les points qui fâchent et voici pourquoi on dit que ce point fâche, je ne sais pas, il faudrait qu'ils le disent. Non, c'est pas, mais il ne faudrait pas qu'on reste toujours dans les mots, qu'on vienne avec l'accord, qu'on essaie même de les sur-souligner ou quelque chose comme ça, surligner, pour dire voici les points qui fâchent. Mais moi, j'ai lu l'accord avec l'annexe qui va avec.
Vous pensez qu'il faut aller donc à cet accord avec les insuffisances et le parfaire au fur et à mesure?
Mais tout travail humain est perfectible, monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? On va le perfectionner avec le temps. Mais ce que moi, j'ai lu, à moi, ce que j'ai pas lu l'accord, ce que j'ai lu, il y a des insuffisances, certes. Mais j'aurais voulu que ceux qui sont en train de critiquer cet accord-là soient aujourd'hui au pouvoir et qu'on leur propose le même accord dans les mêmes conditions et qu'ils disent oui, mais je ne suis pas d'accord. En ce moment, je vais les tirer chapeau. Mais en réalité, cet accord me paraît un accord très, très rigoureux qu'il faut suivre et essayer de mettre en pratique. Le mettre même en pratique, pas essayer, mais de le mettre en pratique. Alors, complètement.
Il est donc 18h45, la suite de ce débat dans un instant.
réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, le premier sujet de ce forum de la presse, c'est bien sûr le prix accord d'Alger. On en parle depuis maintenant une trentaine de minutes. Dites à présent, la communauté internationale a elle aussi réagi puisqu'on est au stade des réactions. Il y a deux jours de cela, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU s'étaient consultés à New York. Le Conseil a qualifié le projet d'accord d'étape importante vers la conclusion d'un accord global et inclusif. Il a par ailleurs quand même invité toutes les parties à signer et à s'engager pour la pleine mise en œuvre de l'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Togula?
Oui, moi je pense que c'est une réaction légitime de leur part, d'autant plus qu'ils se disent que le pays, depuis combien d'années, nous sommes en train de patauger avec des tiraillements par-ci, par-là, des groupuscules qui se réveillent et tout. Donc, si cet accord-là a été approuvé par beaucoup, pratiquement toutes les parties, à l'exception du groupuscule MNNA et sa nébuleuse, donc je crois que c'est important qu'ils ouvrent un peu les yeux, qu'ils mettent un peu leur orgueil de côté et puis qu'ils passent à la signature, au paraphage, comme disait Cissé.
Maman, Cissé.
Moi, je pense que la communauté internationale doit aller loin parce qu'elle ne doit pas se limiter dans les déclarations et bonnes intentions. Et on l'a vu ailleurs, c'est des forces qui ont été déployées pour sécuriser les populations. Et je pense que si on fait la même chose à Kidal, ou bien ailleurs, à Père Menaka, je pense qu'on ne verra pas... peut-être la communauté internationale aura d'autres solutions que les Maliens comprendront. Je parle de l'actualité récente, notamment du fait qu'une partie de Gao, ne parvenait pas en tout cas à comprendre certaines décisions que la communauté internationale, par le biais de l'aménagement, avait prises en son temps. Donc moi je pense que la communauté internationale doit aller loin dans ce dossier parce qu'il est important aujourd'hui que le MNLA et ses alliés soient en tout cas considérés comme des terroristes, comme les autres. Non, c'est important. Du moment où ils refusent de participer à la voie tracée par l'ensemble de la communauté internationale, comme mon frère dit que pour la première fois, on voit que tout le monde est avec le Mali, il faut que, si tout le monde est avec le Mali, il faut que le Mali en bénéficie. Parce que si on voit la réalité du terrain, on comprend que le MNLA n'est pas bousculé.
Et Madou Cissé de Radio Nostalgicaï.
Oui, le MNLA n'est pas bousculé pour le moment. Je crois que la communauté internationale est en train d'utiliser d'abord de la carotte. Et je rappelle que Yalta, la conférence de Yalta n'est pas morte. Quand on a partagé le monde à Yalta, c'est... L'Afrique francophone a été confiée à la France, on le sait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la France a dit à travers son ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur, je crois, au Mali, l'a confirmé. Ils encouragent pour le moment qu'ils signent. On vous encourage. Mais passer un délai certain, qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être la seconde étape de négociation, de lobbying, pour reprendre les termes de mon collègue, qui sera enclenché. On va maintenant passer au bâton. Mais on ne peut pas dire, voilà, vous refusez de paraffer aujourd'hui, donc demain on vous emmène les chars. Comme ça a été fait au Congo, je crois qu'il fait référence à l'action de l'ONU au Congo. Non, je pense que la communauté internationale est dans son évolution normale. On essaye de les sensibiliser. Je crois qu'on va, arriver à cette situation de signature, c'est sûr.
Comme on le constate, le préaccord d'Alger continue de susciter en fait beaucoup d'interrogations. Mais je voudrais quand même vous demander, doit-on tout de même espérer une issue heureuse, Madame Togula?
On peut espérer une issue heureuse, mais je reste sceptique par rapport au MNLA et sa nébuleuse.
Voilà. Maman Cissé.
Oui, tout comme Awa, peut-être elle le dit de façon diplomatique. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet de l'avenir de mon pays. Je suis inquiet parce que désormais, rien ne sera comme avant. Parce que il y a des gens qui nous ont proposé, ils nous ont promis des choses. Il faut que, aujourd'hui, il est temps, je dis bien, il est temps que le régime en place nous montre la voie aussi, parce que, comme d'autres Maliens, moi aussi j'ai commencé à sentir la fatigue, parce que il y a des choses qui se passent dans ce pays, au nord du Mali, qu'on n'a jamais vu par le passé. Même quand il y a eu l'occupation, il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle au nord du Mali qu'on ne peut pas imaginer.
Maman, Malou, c'est cette fois-ci de la radio Nostalgica.
Oui, je pense que l'avenir va être dégagé dans les semaines à venir, parce que après avoir paraffé l'accord, on passera à l'étape ultime, qui consiste à la signature de cet accord. Et juste, je voudrais insister et dire quelque chose. Ces gens de la CEMA, la coordination des mouvements de la ZAWAD, sont déjà habitués à gérer une zone sans l'intervention de qui que ce soit. Ils sont là. Maintenant, pour qu'on vienne leur dire un matin et arrêter de gérer ça maintenant, il faut revenir dans la République. Vous pensez qu'ils vont se réveiller le matin, comme dit Martin Luther King, nous sommes frappés de grâce et on devient maintenant très cool. Non, non, non. Je pense que tout qu'on fait, quoi qu'il arrive, ils vont s'agiter pendant un moment, comme eux-mêmes ont demandé, donnons-leur un délai, ils vont se prononcer et ils vont paraffer après. On passera à la signature à Kidal.
Nous allons passer à un sujet beaucoup plus léger, à un événement que j'irais même heureux. Nous allons parler de sport, puisque nous sommes avec des journalistes, nous parlons de l'actualité. Alors, l'actualité, c'est aussi les sacres des Aiglonnais. C'est un sujet que nous allons aborder à présent. Dites-nous, c'est un événement majeur quand même pour le monde sportif malien, non, Madame Togoula?
Oui, c'est un événement majeur parce que champion d'Afrique, des juniors, c'est une fierté pour tous les Maliens et toutes les Maliennes. Donc, je crois que vraiment les Aiglonnais sont à féliciter pour leur courage, ainsi que l'entraîneur, bien entendu, qui a apporté sa touche.
Voilà. Maman Cissé, Renouveau FM.
Je vous assure, je ne connais pas même la composition de l'équipe qui a gagné, mais je pense que c'est un événement heureux. Sinon, c'est l'événement le plus heureux de ces deux dernières années, parce que au moins, on a un trophée, on a des Maliens qui ont montré qu'au-delà de tout, ils peuvent en tout cas redonner espoir, et ils nous ont donné espoir. Nous espérons que ceux qui sont partis au Sénégal nous amènent aussi un trophée.
Madou Cissé, Radio Nostalgica.
Je pense que c'est un événement heureux. Mm-hmm. On est sur la même longueur d'onde cette fois-ci.
Non loin de chez vous, il y a quand même une autre compétition qui commence.
Oui, je pense que déjà avec cette équipe, moi, ce qui m'a plu dans cette équipe, c'est la composition, parce que je me suis intéressé un peu aux joueurs, voir quel était leur club, où est-ce qu'ils jouaient. J'ai remarqué que vraiment ces jeunes venaient d'équipes populaires de la République. Il y a des gens qui venaient de Kita, de Ségou, des trucs. C'est extraordinaire. Et donc, moi, je pense que chaque fois que les Maliens se mettent ensemble, on essaie de bannir autant que faire se peut cette dynamique de corruption. On arrive à faire des choses importantes, surtout en matière de football.
Nous allons à présent parler d'un événement attendu dans deux jours, c'est le 8 mars. Alors dites, cela fait 21 ans que la femme malienne est célébrée. Alors ce fait a-t-il une incidence sur sa situation? La question va être naturellement posée en premier lieu à Madame Togoula Awasemega.
Oui, ça a une incidence parce que de plus en plus, on voit qu'au Mali, le rôle et la place de la femme est considéré par les Maliens, par le gouvernement en place, même s'il y a des imperfections à parfaire jusqu'à présent, notamment le code de personnes et de la famille qui a créé une véritable polémique. Mais je crois que de plus en plus, les femmes commencent à s'imposer et elles sont sur la bonne voie.
Alors, femme ministre, femme généraux, une dame qui vient d'être portée à la tête de la Cour suprême, et doit-on encore penser que les Maliens n'ont pas voix au chapitre, Maman Cissé?
Je pense que, au-delà du fait que nous allons fêter le 8 mars, il ne faut pas oublier la précarité dans laquelle vivent, en tout cas, les femmes en milieu rural. Et quand on voit nos sœurs de Bamako, de la capitale, qui profitent souvent du nom de celles qui vivent en milieu rural, en tout cas pour mener leur propre combat, je crois que c'est inquiétant. Au Delta, il y a le fait qu'il y a une loi à l'Assemblée nationale et qui peut en tout cas valoriser la femme. Mais quand on voit les positions tranchées par rapport à cette loi et les sorties de certaines associations, il y a lieu en tout cas de se poser la question sur en tout cas la volonté des autorités politiques à faire avancer les dossiers concernant la promotion de la femme au Mali.
Mais c'est de radio nostalgique.
Prendre une journée, journée de la femme, moi franchement, je ris quand je vois ça. Parce que,
et pourquoi?
Parce que c'est pas ça qui va faire changer quelque chose. Une journée, bon, elles sont bien habillées et puis après... Mais moi je pense qu'il faut penser aux vrais problèmes que ces femmes rencontrent, pas seulement le 8 mars, que vraiment qu'il y ait des politiques volontaires pour qui seront menées envers ces femmes-là, afin que elles puissent sortir de l'ornière, comme l'a dit monsieur mon collègue Cissé, les femmes rurales vraiment sont à la traîne. Je me demande, est-ce que les femmes qui sont dans les coins reculés de Gao, Tombouctou savent qu'il y a un 8 mars? Je n'en suis pas sûr. Donc prendre une journée, je reste sur ma faim par rapport à ça. Et je, souvent pour taquiner, pour discuter et puis taquiner les femmes avec qui nous travaillons au quotidien, je leur dis, mais il faudrait qu'il y ait une journée des hommes. Parce que vous dites qu'il y a émancipation. Donc, soit vous annulez votre journée, soit nous aussi, nous allons créer une journée. Donc, globalement, une journée ne sert pas à grand-chose, mais il faudrait qu'il y ait un travail de longue haleine au quotidien pour que les conditions dans lesquelles vivent les femmes puisse être amélioré.
Madame Toula, Awa Sénégal, le 8 mars n'est pas que spectacle, après tout, quand même.
Ce n'est pas que spectacle, justement. En fait, le 8 mars, je crois que cette journée-là a été prise juste pour la symbolique. En fait, tout au long de l'année, il y a des activités qui sont menées, il y a le travail qui est fait de longue haleine, et c'est cette journée-là, maintenant, qui sert de journée pour un peu exposer le travail fait. Okay. Pour magnifier un peu la femme, pour valoriser un peu le rôle et la place qu'elle occupe aussi bien dans la société, dans la famille et tout au long de l'échelle nationale et internationale. Et
nous sommes donc dans la mouvance du 8 mars, voilà pourquoi nous allons demander à Madame Togola de prononcer les mots de la fin.
D'accord, donc je souhaite une bonne fête à toutes les femmes, à toutes les filles, à toutes les petites filles scolarisées, déscolarisées, de familles démunies, des orphelins, des orphelines. Et vraiment, je demande encore une fois de plus au gouvernement malien de s'impliquer vraiment pour la cause des femmes rurales, des femmes, des personnes issues de milieux démunis, des orphelinats, et une pensée spéciale à toutes ces personnes qui sont malades, à toutes ces femmes qui souffrent, qui font tout pour la famille.
Voilà. Nous sommes donc au terme de ce rendez-vous, notre rendez-vous de ce vendredi 6 mars 2015. Le Forum de la presse a reçu, je vous le rappelle, 3 journalistes. Maman Cissé et Renouveau FM, Madou Cissé Radio Nostalgicaï, Madame Togola Awa Semega de Kunafori.com. Alors, l'émission vous a été présentée par Seydou Foma à la mise en onde. Il y avait Nuhu Diré à la régie vidéo Mamadou Ouattara. La réalisation a été assurée par Ousmane Diadje Touré. Notre prochain rendez-vous, ça sera donc vendredi prochain. Au revoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.